Cinésic Radio, interview BO, par Benoît Bazerico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésic Radio sur cinésic.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésic sur Facebook ou Twitter. Ce programme est conçu en plein confinement et s'intéresse à une série d'espionnage française majeure qui dévoile sa 5e saison.
T'en penses quoi ? De se poser des questions.
Interview de Rob, le compositeur du Bureau des Légendes. Bonjour Rob.
Bonjour Benoît.
Alors donc, on est en plein confinement et la saison 5 du Bureau des Légendes sort dans cette situation très particulière. Et donc, peut-être que le public confiné va pouvoir découvrir en masse ce film. Mais tout d'abord, lié à ce contexte, est-ce que dans votre activité de cinéma, ça a changé quelque chose ? Est-ce que vous travaillez sur un film qui a été reporté, par exemple ? Je sais que c'est très souvent le cas pour beaucoup de gens.
Là, on sent qu'en tout cas, les séries en streaming, là, ont une autoroute devant elles. Et je pense que le Bureau des Légendes, ils doivent se frotter les mains. C'est la situation parfaite, finalement, pour regarder cette série. C'est encore mieux que d'être enceinte, quoi. On est bloqué chez soi. C'est absolument parfait, parfait timing pour eux, ce qui est un petit peu, évidemment, cynique comme vision des choses. Mais enfin, bon, voilà, c'est la réalité. En revanche, c'est vrai que pas mal de projets qui étaient lancés de mon côté, des films, des documentaires, sont au point mort, en tout cas pour tous ceux qui n'avaient pas terminé leur tournage, voire même pas commencé le tournage. Et il n'y a que ceux qui étaient en phase déjà de montage et de post-production qui peuvent se maintenir tant bien que mal. Mais c'est vrai que la pause mondiale imposée par ce confinement touche évidemment énormément le monde du cinéma.
Donc Canal Plus et Canal Plus Série, donc qui est le diffuseur de cette série et le producteur, a pu d'ailleurs rendre gratuites les 4 premières saisons du Bureau des Légendes. Donc vous avez pu peut-être faire du binge-watching tout le week-end de ces 4 premières saisons. La 5e sort donc. Alors pour rappel, c'est une série réalisée et écrite par Éric Rochant avec Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudeau notamment. Donc on est au sein de la DGSE, un département appelé le Bureau des Légendes, qui pilote à distance les agents des services de renseignement français en immersion dans des pays hostiles sous une fausse identité pour repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de renseignement. Alors c'est une série passionnante, aussi bien sur le plan réaliste, on apprend plein de choses, que sur le plan du suspense, de thriller, ainsi que l'attachement pour les personnages, l'émotion, la romance. Rappel aussi pour le compositeur, alors Rob, donc depuis 2005, vous êtes claviériste du groupe Phoenix. Vous avez débuté au cinéma en 2010 en signant la musique de Belle Épine de Rebecca Slotowski, que vous avez retrouvé évidemment à plusieurs reprises, notamment pour la série, elle aussi, de Canal+, Les Sauvages, avec Roche Dizem en président de la République. Des films de genre également, Maniac et Horns de Alexandre Aja, et plus récemment, collaboration avec Nicolas Boukrieff, Made in France, et puis Un ciel radieux, qui était aussi pour la télévision. Et puis cette année, on vous avait aussi vu dans Papicha de Mounia Medour, le film algérien qui a fait succès aussi au Festival de Cannes. Voilà pour résumer un peu la série et votre parcours. Et tout d'abord, pour la série, comment s'est faite la rencontre avec Éric Rochant ?
Éric m'a appelé, je pense, après avoir vu un film réalisé par Leila Marakchi qui s'appelait Rock the Casbah. Et je crois que Éric et sa monteuse Pascal Fenouillet étaient amis avec Leila. Ils ont vu le film. Et je pense que l'instinct d'Éric Rochant a été de se dire que donc c'est un film mélodramatique, hein, voilà, avec j'avais composé une musique, voilà, assez dramatique, mais malgré tout solaire. Et je pense que son instinct de réalisateur a été de se dire qu'il y a un compositeur qui allait amener du mélo et en même temps, ayant vu mon travail sur des films d'horreur, voilà, donc du mélo et du suspense, on va dire, de la tension et de la romance, voilà, c'était à peu près ce dont il avait besoin pour la série. Comme tu l'as souligné, une des originalités de cette série, c'est d'aborder le monde de l'espionnage, mais par l'angle de l'intimité, par le rapprochement et vers la psyché des personnages et leurs tourments, leurs désarrois, leurs contradictions. et leur histoire d'amour.
Tout à fait. Alors la série, c'était nouveau pour vous. Est-ce que ça change beaucoup de choses par rapport au cinéma? Je sais qu'il y a à l'américaine l'idée qu'il y ait un showrunner avec lequel la collaboration est peut-être la même qu'avec un réalisateur. Éric Rochant, c'est le showrunner et le réalisateur. Finalement, il n'y avait qu'un seul interlocuteur pour vous?
Il y a beaucoup de réalisateurs sur le bureau des légendes. Chaque saison, il y a 3 ou 4 différents réalisateurs. Même il y a des réalisateurs qui... par exemple, tourne les scènes qui sont tournées au Maroc ou en Égypte ou ailleurs. Voilà, il y a un réalisateur qui va s'occuper de toutes ces scènes-là. L'avantage d'avoir un showrunner, c'est qu'effectivement, c'est peut-être le principal point commun avec le monde du cinéma, c'est que ça permet d'avoir un interlocuteur privilégié. Donc, qui serait au cinéma le réalisateur. Voilà, là, c'est le showrunner. Donc, c'est vrai que c'est Éric Rochant qui m'a guidé, qui décidait de quelle musique serait utilisée, de où elle serait utilisée. Et c'est lui et uniquement lui qui me donnait ses notes sur les épisodes, même les épisodes réalisés entièrement par quelqu'un d'autre. La seule exception à ça, c'est sur cette saison 5, il y a effectivement les épisodes 9 et 10 réalisés par Jacques Audiard. Et c'est la seule fois où Éric Rochant a donné carte blanche à un autre réalisateur. Donc là, j'ai eu à travailler avec pour seul et unique interlocuteur Jacques Audiard et non plus Éric Rochant. Et c'est vrai que c'était pas mal comme interlocuteur.
Ah oui, ouais, très intéressant, parce que finalement, donc, c'est vrai, il y a eu Elie Cisterne, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a fait, je crois, quelques épisodes de la série, la saison 3. Il y a eu Pascale Ferrand aussi, grande réalisatrice.
Ouais,
donc ce que je viens d'entendre, c'est que malgré qu'il y ait Elie Cisterne et Pascale Ferrand, vous travaillez tout de même avec Éric Rochant, et donc Jacques Audiard, c'est la première fois que la collaboration s'est faite avec quelqu'un d'autre. Et donc finalement, Jacques Audiard, est-ce qu'il avait des intentions différentes de celles qui émanaient d'Éric Rochant?
Oui, je pense qu'il a... C'était d'ailleurs sans doute un défi assez immense pour lui, puisqu'il arrive après 48 épisodes, donc 5 ans de travail sur une fiction, et lui, il a dû clore ce chapitre. Donc je pense que ça devait être quelque chose d'assez difficile, évidemment, à aborder. Et en plus, il l'a fait en ne trahissant rien, ni de la série, ni de son propre style, ni de son ton qui est si particulier. Audiard qu'on connaît, quoi. Donc des films noirs, très denses, une atmosphère très pesante, qui finalement colle assez bien à l'univers du Bureau des légendes. Mais il a su le faire avec son style vraiment... très graphique, avec sa forme de narration, son montage et tout ça. Et je pense qu'il a su donner un épilogue, évidemment, que je ne peux pas révéler, mais voilà, c'est grandiose, quoi. C'est formidable. C'est à la fois du grand Bureau des légendes et du grand Audiard. Tout le monde a gagné.
Je garantis ce programme, cet entretien sans spoiler, hein, pour ceux qui auraient peur avant de découvrir la saison. Pour la série, il y a une saison par année à peu près. Est-ce que votre travail était pour chaque saison comme un film, ou alors vous avez par exemple parfois fait la musique de 2 saisons à la fois?
Non, c'était vraiment les saisons, une saison après l'autre. Donc chaque année, c'était repartir pas tout à fait à zéro, puisqu'on était quand même fort de ce qu'on avait composé sur la saison précédente. Il y a des thèmes qu'on retrouve d'une saison à l'autre. Là, sur cette saison 5, il y a même des thèmes repris de la première saison. Donc, c'est vraiment un travail qui est presque comme un opéra en 5 actes, on pourrait dire, quoi. Il y a vraiment des thèmes qui sont redessinés, réorchestrés d'une saison à l'autre. Il y a 10 épisodes par saison. Donc, évidemment, 10 heures de film à scorer, c'est évidemment pour le compositeur, comme pour tout le monde dans la production de la série, c'est un vrai défi, quoi. C'est-à-dire que il y a une quantité, il y a une rapidité d'exécution, il y a un mode de fabrication qui est quand même très différent de celui qu'on a au cinéma.
Il y a des reprises de thèmes, donc c'est pas une remise à zéro à chaque fois. Et peut-être que des morceaux composés au moment d'une saison, Éric Rochant, peut-être qu'il pioche comme ça dans les archives des saisons passées, peut-être.
Absolument, c'est comme si on avait créé une base de données enrichissait de saison en saison, même si évidemment un des défis à chaque fois qu'on abordait une nouvelle année, c'était d'amener de la nouveauté, un nouvel élan, un nouveau souffle. C'était un défi pour moi comme pour les scénaristes de chaque année réussir à créer de nouvelles arches narratives, de réinventer les personnages, de faire évoluer les musiques et de préserver l'appétit des spectateurs.
Très bien, alors écoutons un premier extrait de cette BO. Musique de Rob pour la série Le Bureau des Légendes. Alors c'est issu, celle-ci, cet extrait du disque qui est sorti de la 5e saison, mais c'est un motif qu'on retrouve de saison en saison. C'est un peu le motif du thriller, du suspense. Et puis on retrouve évidemment le style qui vous caractérise majoritairement, même si évidemment votre style de musique de film est très varié. Mais évidemment, vous venez de la musique électronique, on sent ces sonorités électroniques. Mais votre travail était quand même dans le mélange. Ce qui vous caractérise aussi, c'est ce mélange entre électronique et musique organique.
Typiquement sur ce morceau, qui est le morceau d'ouverture de la saison 5 et qui est effectivement une reprise d'un thème des saisons précédentes, c'est typiquement l'exemple d'une musique hybride entre effectivement mes sources électroniques, et voilà, c'est là d'où je viens, c'est la musique qui me passionne, et tout en utilisant l'orchestre qui vient à la fois apporter une dimension dramatique et mythologique. Voilà, cette dernière saison, qui vient aussi marquer voilà, ce dernier élan vers la fin du Bureau des Légendes.
Alors, il y a un climat un peu assez soutenu, inquiétant, il y a même des scènes typiquement d'action. Le genre de l'espionnage, est-ce que vous l'aviez déjà abordé? Est-ce que vous aviez des références en termes de musique d'espionnage?
Non, pas du tout, et je pense que c'est un univers à la fois qu'on fantasme énormément, et notamment au cinéma. Citons le plus connu, c'est tout simplement James Bond, voilà, qui est le plus célèbre au cinéma. On est évidemment très très loin ici d'un univers à la James Bond, même s'il y a quelques gadgets, mais je pense que c'est tout l'intérêt, c'était d'aborder cet univers comme si c'était la première fois qu'on en parlait, et on l'aborde d'une façon très presque, j'ai envie de dire, à la française, c'est-à-dire très intime, très cérébrale, très réaliste. Et je pense qu'on n'avait jamais vu l'espionnage comme ça, et c'est pour ça que les gens sont passionnés pour cette série, c'est que c'est comme si on nous montrait exactement comme ça se passait. Alors évidemment, moi je suis incapable de dire si c'est vraiment comme ça, mais il me semble que les quelques agents qui travaillent à la DGSE et qui ont vu la série ont particulièrement apprécié le travail d'Éric Rochon.
Alors en effet, c'est une série d'espionnage réaliste. Alors très souvent dans le cinéma ou dans tout film, quand il y a du réalisme, souvent on se prive de musique pour être vraiment en immersion. Alors là, on est en immersion, il y a même des côtés quasiment documentaires, mais la musique est toujours présente. Alors peut-être que justement, pour préserver le réalisme, il fallait que la musique joue autre chose que la simple illustration, j'imagine.
Évidemment, comme toujours, moi j'aime que la musique raconte quelque chose de plus que ce qu'on voit à l'image, et qu'elle crée du relief, et qu'elle participe du sentiment, en fait, qu'elle participe de la relation entre le spectateur et la fiction qu'il est en train de regarder. J'ai envie de créer un lien et une dimension, voilà, qui rend les choses à la fois plus complexes, plus riches ou plus inattendues. Donc, j'essaie toujours de faire ça avec la musique. Il faut voir aussi qu'on est dans un contexte qui est télévisé. Et ça aussi, c'est des codes qui sont un petit peu différents des codes qu'on a au cinéma. Et la télévision a beaucoup besoin de musique, parce que la télévision a peur du silence. C'est interdit, la télévision, le silence. Et donc, on a toujours un appétit qui est plus grand pour la musique quand on est à la télé, même si elle est souvent sous-mixée et qu'elle est un peu cachée derrière. N'empêche qu'il en faut beaucoup. Éric a su mélanger toutes ses contraintes à la fois et ses envies aussi de faire quelque chose qui soit jouissif. On rentre en profondeur dans l'intimité donc, et dans l'esprit des personnages, et avec des situations extrêmement complexes où il y a à la fois de la tension, à la fois du mensonge personnel, du mensonge d'État. Et tout ça lié, il fallait trouver un langage qui soutienne tout ça. C'est pour ça qu'on a inventé cette musique un peu étrange, hybride, et que je ne comprends pas moi-même.
Et dans la manière donc de placer la musique, de savoir à quel moment la placer, est-ce que vous êtes intervenu en amont et Éric Rochon a puisé dans une matière composée en amont, ou alors vous étiez là après le montage et vous-même vous choisissiez quel moment souligner?
Alors c'est une particularité du travail qu'on a fait ensemble sur le Bureau des Légendes, c'est qu'effectivement chaque saison, à chaque année, j'ai composé presque l'intégralité de la musique simplement en lisant les scénarios et en discutant avec Éric. Et je lui livrais cette première salve de musique qui était constituée d'une, je sais pas, peut-être 2 heures de musique avec une vingtaine, trentaine de morceaux, parmi lesquels Éric choisissait ses favoris, ceux qu'il pensait qu'il fallait développer pour cette saison, en me donnant quelques notes, des indications de durée, d'orchestration, d'envie, de thème, etc. Et c'est avec cette matière-là qu'ils abordaient, dès le premier jour de montage, la nouveauté de la saison. Donc, je ne participais pas au choix des séquences qui étaient scorées, mais je livrais comme ça une sorte de ma vision de fantasmée de ce qu'allait être la saison. Et après, eux se débrouillaient avec ça. Bien sûr, après, ils me livraient une un premier montage sur lequel je réintervenais, je faisais toutes les modifications nécessaires et j'apportais, on va dire, les finitions, quoi, pour que ça soit parfait.
Et votre partition, comme on va l'entendre là, ne se prive pas d'un certain lyrisme. Robe pour le Bureau des Légendes et on entend un morceau qui évolue, qui débute de manière très minimale et qui prend de l'ampleur progressivement. Il y a comme ça une progression musicale qui va vers le lyrisme et on l'entend aussi dans cette partition, peut-être la flûte qui amène ça, une notion un peu orientalisante dans la partition et ça m'amène à vous questionner sur justement la géographie de la série qui est éclatée entre la France, la Russie dans la quatrième saison, l'Orient, le Moyen-Orient, lorsque le personnage de Malotru se retrouve prise en otage par Daesh. Comment musicalement vous avez justement essayé de convoquer et pas trop non plus le faire les géographies?
Alors le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est le morceau de la saison 1 qui était le morceau de la romance. C'est le morceau de l'histoire d'amour entre Malotru et Nadia Almanzour. Ce qui était intéressant, c'était de reprendre ce morceau sur la saison 5 en lui donnant un souffle nouveau. Et l'idée de l'orchestrer comme ça, voilà, avec ce quatuor très riche et cette flûte soliste, c'était pour pousser les curseurs du romanesque à fond, quoi. Exactement comme on le ferait si on devait faire un thème d'opéra. Moi, c'était ma référence, c'était de me placer vraiment dans un cadre opératique et mythologique, quoi. Faire de ces héros, qui sont des héros pourtant montrés de façon très réaliste, et ben de faire d'eux des héros mythologiques, de faire que leur histoire d'amour, et ben puisse résonner à travers les âges. Donc c'est pour moi ce que produit comme effet évidemment inconscient, voilà, la musique dite classique, c'est-à-dire en fait juste l'orchestration classique. Et donc, pour répondre à ta question, cette flûte était présente dès la première saison. Alors, c'est vrai que Nadia Almanzour est syrienne et qu'elle nous fait voyager beaucoup en Moyen-Orient. Le récit nous emmenait à voyager énormément. Et pourtant, l'idée était quand même d'effleurer ces voyages, mais sans jamais essayer de rentrer dans des clichés, parce que sinon, on aurait vite été embêté. Vu que la série voyage beaucoup, ça veut dire qu'il fallait jouer voilà, du balalaïka dès qu'on était en Russie. Il aurait fallu jouer des gamelan belles, il aurait fallu jouer du doudouk. Bon, ça aurait été évidemment un peu grotesque et une sorte de grand cirque. Voilà, c'était pas l'idée. L'idée, c'était de se dire que on allait voyager, c'est-à-dire qu'on allait pénétrer dans des mondes inconnus, des mondes un peu inquiétants, parce qu'à chaque fois, on pénètre en tant qu'espion dans ces univers-là. Donc, il faut à la fois se fondre dans la masse, en même temps essayer de comprendre ce qui s'y passe, soutenir des informations. Voilà, l'idée, c'était que la musique effleure ses influences, mais tout en faisant comprendre qu'on était dans l'inquiétude et qu'on était un espion. Donc, on n'épousait pas vraiment l'identité de ces endroits, mais qu'on y était une sorte d'intrus masqué, quoi. Donc, c'est une position tellement ambiguë, tellement étrange. Voilà, c'est cette idée-là que j'essayais de traduire en mêlant tous ces instruments.
Oui, c'est très intéressant comment justement la musique va participer à l'esprit d'espionnage où le spectateur, même moi-même à l'écoute de la musique, j'ai essayé de déchiffrer la compréhension, le rôle de la musique et finalement, par exemple, un thème qui est associé à quelque chose, je pensais que c'était le thème de cette chose-là, mais à une autre saison, on retrouve le même thème sur autre chose. Et du coup, ça apporte un autre déchiffrage, finalement. Donc, finalement, la musique est aussi une énigme à déchiffrer.
Absolument. Je pense que c'est une des beautés de cette série, c'est qu'on est dans un univers entièrement crypté, où les mensonges sont des mensonges sur plusieurs générations, plusieurs couches de mensonges les unes sur les autres. On parle de double espionnage, mais là, il y a même du triple espionnage. Et en fait, ça crée une sorte de tissu, voilà, comme ça, extrêmement complexe, dans lequel on est perdu et qui est un peu vertigineux. Si la musique peut aider à se sentir encore plus perdu, alors je suis content.
Alors, on va écouter maintenant un des plus beaux thèmes, je trouve, de cette partition, qui à elle seule rend la série émouvante. On retrouve ce thème régulièrement et vous l'avez appelé « Light ». Magnifique thème signé Rob pour le Bureau des Légendes, qui fait aussi penser un peu à l'électronique romantique d'un Vangelis. Je trouve ça très très beau ce thème, qui apporte au personnage de Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz, une dimension romantique, justement, liée peut-être à sa solitude qu'il traverse.
Bah déjà, merci beaucoup, merci de tes compliments. Écoute, c'est vrai que c'était une envie presque instinctive, hein. J'ai même pas vraiment réfléchi, et je me suis laissé porter par l'émotion tout simplement de la narration, de l'histoire de ce personnage. Et je trouve qu'au-delà donc du suspense, au-delà de la tension, au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer sur ce qui est de difficile d'être un espion, ben en fait, ce qui m'intéressait, et ce qui intéressait Eric aussi, je crois, c'est comment c'est difficile intimement, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être au quotidien quelqu'un qui doit mentir? Qui es-tu quand tu mens en permanence? Est-ce que tu finis par devenir le personnage de tes mensonges, ce qu'on appelle la légende dans la série, ou est-ce que tu restes encore toi-même? Quelle est la part de toi-même qui subsiste dans un mensonge permanent? C'est des questions que je trouve absolument pertinentes et magnifiques, en fait, et qui appellent pour moi un certain lyrisme, quelque chose de, voilà, de à la fois romantique et romanesque. C'est évidemment assez triste, mélancolique, puisqu'on se doute qu'il y a une grande part de tristesse à l'idée de laisser une part de son identité quelque part, de laisser sa famille, laisser son pays. Mais voilà, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre du devoir, de l'esprit d'État, de la dévotion, de la mission, qui rend les choses belles et grandioses malgré tout.
Y a donc un travail de couleur, de timbre, de choix d'instruments et un travail de mélodie. C'est ce qui vous caractérise, hein, dans chacune de vos partitions. Il y a les deux. Et ici, donc, on retrouve des motifs. Est-ce que vous avez aussi réfléchi par personnage ?
Bah, souvent, j'ai remarqué que c'était la fausse bonne idée, souvent. Ça, quand on démarre un projet, on se dit, bon, alors voilà, il va y avoir le thème de Malotru, il va y avoir le thème de Gigiga, il va y avoir le thème de... Et en fait, bon, c'est peut-être un point de départ qui permet de se mettre à composer, à écrire. Et puis finalement, on se rend compte que une narration est plus complexe que ça, quoi. C'est pas Pierre et le loup, quoi. Il n'y a pas le hautbois, la flûte, la clarinette. C'est plus, on a envie de quelque chose de plus complexe. Et en fait, c'est plus intéressant de chercher des thèmes en fonction des situations ou des thèmes en fonction du rapport, encore une fois, à la fiction, plutôt que des thèmes par personnage. Mais il peut arriver souvent que, voilà, évidemment, s'il y a un thème qui fait penser à une histoire d'amour, pas forcément, on va entendre ce thème souvent quand on voit les personnages en question. Mais je pense pas que ce soit une idée pertinente d'avoir un thème par personnage. Ça peut aider.
Et est-ce que pour brouiller les pistes, un thème que vous avez écrit pour une situation, Éric Rochant l'a changé de place ?
Je pense que souvent, il a placé mes musiques à des endroits auxquels je n'aurais moi-même pas du tout pensé. Et moi j'appelle ça la magie du cinéma souvent quand ça arrive, c'est-à-dire que moi je compose une musique pour une course de voiture et puis elle se retrouve sur une scène d'amour. Bon, bah c'est les grands malentendus de la vie, c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'on voit pas les choses de la même façon. Et en fait, c'est pour ça que j'ai aussi cherché à laisser un maximum de liberté à Eric et à son équipe pour le choix de placement des morceaux. Et c'est pour ça que j'ai donné des noms aussi cryptiques aux morceaux. C'est pour ça que les morceaux s'appellent pas justement Poursuite ou romance, mais ils s'appellent tous Research ou Inform ou Strat. C'était pour permettre d'aborder l'écoute des morceaux vierge de toute préconception de l'utilisation du morceau, pour qu'on puisse vraiment choisir l'endroit idéal in situ, quoi, et non pas s'imaginer avant même de l'avoir écouté où est-ce qu'il devrait aller.
Et puis de la même manière, de ne pas faire un thème par personnage évite la simplification, alors que la série est portée sur la duplicité permanente de chaque personnage. La musique contribue à cette opacité quelque part.
Bah oui, absolument, c'est très juste, vu que le principe c'est qu'ils sont tous dans la manipulation et dans la désidentification permanente, et évidemment, la musique participe à ça. C'est-à-dire qu'il y a des contre-emplois, il y a des contradictions, il y a des choses inattendues.
Alors, est-ce qu'Éric Rochant avait quand même des intentions, des indications, ou alors vous aviez vraiment carte blanche ?
En fait, au début, il y a donc 5 ou 6 ans maintenant, il m'a fait écouter des musiques... électronique minimale, très abstraite, était très très éloignée de vraiment de mon univers personnel. Je pense qu'il voulait juste me montrer la voie vers quelque chose de à la fois donc simpliste et complexe, c'est-à-dire très cérébral mais avec peu d'éléments. Il voulait aussi, je pense, m'amener vers quelque chose d'assez froid. Et d'oppressant. J'ai dû réinventer un petit peu les influences qui me faisaient écouter puisque c'était pas du tout les miennes, et ça nous a amené à dialoguer, à chercher des sonorités. Voilà, je pense qu'il avait un vrai appétit pour la musique électronique, en tout cas au départ, et que finalement, contre toute attente, moi j'y ai apporté quelque chose de plus organique et de plus romantique, et que c'est voilà la fusion de ces différents éléments qui a fait l'originalité de la musique au final.
Est-ce que Canal+ était présent malgré tout ? Parce que très souvent les diffuseurs donnent aussi des choix.
Ils avaient en fait un visionnage de chaque épisode et pour donner leurs notes. Donc en gros on leur montrait une V1 de chaque épisode, et puis en fonction de leurs notes on retravaillait tout. Parfois, il y avait des choses à travailler en musique, parfois non, ça concernait que le montage ou d'autres éléments. Et donc, effectivement, ils avaient leur mot à dire sur chaque épisode. S'ils avaient trouvé la musique insupportable dès le premier épisode, je pense que là, effectivement, j'aurais été mal à l'aise. Mais il se trouve que je pense qu'ils ont fait confiance aux intuitions d'Éric et aux miennes, et qu'ils nous ont suivis assez rapidement.
Et dans quelle mesure le travail, donc l'expérience de cette série maintenant depuis 6 ans, a pu aider ou influencer, on va dire, votre travail pour le cinéma qui continue ?
Ça m'a professionnalisé, en fait. C'est-à-dire que j'avais une approche... c'était il y a 5 ans, évidemment. Donc déjà, en 5 ans, on évolue on appréhende les choses différemment. Mais c'est vrai que j'avais un côté très artisanal de tout fabriquer, voilà, dans mon studio. Donc je continue à faire la même chose, mais avec une idée et des épaules un peu plus solides pour aborder les choses de façon plus industrielle. Et je dis ça pas au sens péjoratif du terme, mais juste en termes de quantité, de rendu, de rapidité d'exécution, etc. L'idée que sur un an, une série, voilà, on doit se composer pour 10 heures de film, donc c'est l'équivalent de 5 longs métrages. Et on a 3 fois moins de temps et 3 fois moins d'argent pour faire ce travail-là. Donc ça impose en quelque sorte de trouver, d'inventer des méthodes, d'inventer une nouvelle façon de créer de la musique, tout simplement. Donc ça m'a appris ça, sans pour autant trahir ma vision de la composition, qui est de faire confiance à mon instinct, qui est d'être dans le maniement des instruments, d'être dans l'idée que voilà, c'est moi qui vais toucher les synthés, les sampler les choses, faire mes boucles, etc., et fabriquer la musique comme une matière vivante. J'essaye de mêler les deux éléments.
Et quand vous faites Le Sauvage pour Rebecca Slotowski, la série, c'était une nouveauté pour elle. Est-ce que justement, vous avez apporté votre expérience, vous, de la série auprès de Rebecca pour cette série?
Typiquement, c'était très intéressant puisque avec Rebecca, on avait déjà fait 3 longs métrages ensemble avant d'aborder, la série Les Sauvages. Donc, c'était intéressant, je pense, pour elle d'avoir à la fois son partenaire musical de toujours qui lui apportait ce soutien émotionnel et original qu'on a créé ensemble depuis le début, et en même temps j'ai pu apporter aussi mon expertise en termes justement de comment répondre à ces nécessités industrielles du mode de la série, quoi. Donc c'est-à-dire produire beaucoup de musique, être capable d'échanger avec un monteur rapidement, d'être efficace sur les rendus, le mixage, etc. C'était très intéressant d'aborder de cette façon-là le travail avec Rebecca, avec qui on avait nos habitudes finalement.
Il y en a certains à la boîte qui persistent à penser que ton bilan est globalement positif.
Pour terminer cet entretien, Rob, abordons la fin. D'ailleurs, le dernier disque, saison 5, se termine avec un morceau qui s'appelle Final. Est-ce vraiment la fin? C'est toute la question, sachant que les deux derniers épisodes sont signés Jacques Audiard. Alors, il y a des rumeurs qui disent que peut-être Jacques Audiard reprendrait la 6e saison. Évidemment, je ne vous demande pas de me révéler des secrets industriels, entre guillemets. Mais quel est votre sentiment, vous, de compositeur, sur une possible suite?
En fait, j'ai l'impression que Éric Rochant a créé un cycle solide qui commence en saison 1, qui se finit en saison 5, et que ce cycle se suffit à lui-même. Que pour autant, le monstre qu'il a créé, l'objet cinématographique qu'il a créé, cette série, maintenant peut évoluer et peut, comme un enfant, l'enfant monstre peut maintenant grandir et voler ses propres ailes. Et je pense que évidemment, il faudra quelqu'un qui ait la tête qui fonctionne très bien et les épaules très solides, parce que c'est une série qui est complexe, qui est difficile à écrire, je pense, difficile à soutenir. Mais je crois que les personnages sont si forts et le concept, ce mélange de réalisme et d'espionnage là est tellement intéressant que ça mérite bien sûr de prolonger l'expérience et de voir où ça nous mène. Je ne pense pas que Audiard soit en lit, mais bon, l'avenir nous le dira.
Et dans l'année qui vient, 2020, alors on pourra vous entendre où ailleurs, autrement, dans les salles?
Je profite pleinement du confinement pour me ressourcer et repuiser l'inspiration auprès de ma famille. Et il y a quelques projets qui ont été donc mis en pause. Je travaillais sur deux documentaires, sur une série avec Alexandre Aja, que j'espère retrouver très bientôt. Mais pour le moment, c'est la grande pause du confinement.
Très bien. Et on va tous donc regarder la saison 5 du Bureau des Légendes sur Canal+, 10 épisodes de la saison. Bureau des Légendes, musique donc de Rob. Merci, Rob.
Merci infiniment, Benoît.